Pour entamer cette émission, deux petites citations. D'abord, une citation du réalisateur et auteur italien Pier Paolo Pasolini. Alors, le sport est un phénomène de civilisation tellement important qu'il ne devrait être ni ignoré ni négligé par la classe dirigeante et les intellectuels. Deuxième petite citation, toujours extraite de cette tribune de ce magazine des sports. Donc, le sport nous confronte au collectif, au social, au culturel, autant qu'à l'économique et à son outrance libérale, marchandisation du corps, capitalisme roi. Donc, deux extraits de cette tribune qui ouvre cette revue de sport. Premier magazine de sport à lire avec un marque-page. Et on reçoit l'un des auteurs qui a contribué à ce magazine, Pierre-Louis Basse. Pierre-Louis Basse, bonjour.
Bonjour.
Avant d'être écrivain, vous êtes d'abord un homme de radio, grand reporter sportif pour Europe 1 et auteur de nombreux livres. Alors, si vous voulez bien, on va parler un petit peu de cette revue des sports d'abord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, bon, même si vous n'êtes pas forcément à l'origine de ce projet, la démarche de ce magazine et pourquoi vous y avez participé?
Bon, d'abord, c'est Christophe, je crois. Hein.
Nico.
Nico, bonsoir, bonjour Nico.
Salut.
On est ravis avec Hubert de se retrouver ici pour discuter avec vous. C'est un festival d'engagement et je m'y sens bien. Bon, je précise que à Europe, j'étais absolument pas seulement grand reporter de sport, hein, j'étais tout simplement journaliste et j'ai été viré pour d'autres raisons que pour le sport il y a 2 ans. Ça, c'est une parenthèse refermée. Des sports, bien sûr, je suis pas du tout à l'origine de la création de Des Sports. Ce sont Adrien Bosque et Victor Robert qui ont impulsé ce travail. Bon, Adrien avait déjà créé Feuilleton, mais c'est vrai que bon, tout de suite, très vite, ils se sont tournés vers moi pour une histoire qu'on avait envie de raconter ensemble. Et il se trouve que ça correspondait à un livre que je suis en train d'écrire, un prochain roman, les copains de 36, qui se joue en Allemagne en 36 pendant les Jeux. Donc c'est vrai que ça tombait bien. Je pense aussi, on en parle souvent avec Hubert, parce qu'on a beaucoup d'échanges ensemble sur cette question-là. Je crois que c'était le moment, quoi. C'est-à-dire que Des Sports à sa façon, bon, SoFoot à sa façon, Hubert à sa façon avec son dictionnaire amoureux, son DokiFoot, d'autres très grands écrivains, je pense à Echnoz, je pense à Asfeld, et puis aux étrangers, enfin on pourra en parler. Mais disons qu'il y a aujourd'hui, en tout cas en France, et c'est ça qui est intéressant et qui va bien au-delà du cadre des sports, un champ esthétique, artistique, historique, économique, cinématographique. Il y a un champ qui est aujourd'hui en mesure d'accueillir une réflexion sur le sport. Et c'est ça qui est passionnant. D'ailleurs, c'est pas un hasard si vous avez inscrit aujourd'hui dans ce festival un débat. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène en cela nouveau. Bon, il y a toujours eu de grandes plumes autour du sport, on les connaît, mais c'était un peu toujours le même refrain de Blondin, Chani, Monterland et puis Bastakosi. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Et voilà, en cela, des sports arrivent à l'heure, arrivent au bon moment. Et d'ailleurs, le travail qu'ils ont effectué se porte très bien. Le prochain numéro accueille des gens comme Noah, comme Delillo, enfin bon, c'est Denis Grosdanovic autour du tennis, Chambaz. Voilà, il arrive au bon moment. Voilà, voilà ce que je pourrais dire.
Alors, votre contribution dans ce magazine, c'est un papier, vous nous dites aussi,
oui, un récit, ouais.
Vous nous dites aussi le début de votre projet de prochain bouquin.
Oui, hein,
c'est
ça.
Et c'est l'histoire d'amitié entre deux sauteurs en longueur, mm-hmm. hein, dans les Jeux Olympiques de 36.
Oui.
Alors, forcément, en contexte particulier, amitié qui se crée entre donc le sauteur allemand
et Lutz Long, oui.
Jesse Owens, noir ouais. américain.
Oui, c'est-à-dire que c'est une histoire sur laquelle je travaille depuis de nombreux mois, qui se joue à Berlin. Elle est exemplaire parce que c'est une sorte de bras d'honneur à Hitler. En deux mots, hein, parce que voilà, en deux mots, Jesse Owens, bien sûr, est ce noir petit-fils d'esclave qui va gagner plusieurs médailles d'or à la fois 100 mètres, 200, 400, 400, et puis à la longueur. il est en difficulté aux qualifications. Vous savez, la longueur, c'est un peu casse-gueule parce que des types comme Carl Lewis ont failli être éliminés aux qualifs. Quelquefois, on se fait éliminer aux qualifs, ça arrive les plus grands. Et donc, il est en difficulté et à ce moment-là, un type vient le voir, il a un physique de Hitlerjugend, il est magnifique, il est blond avec un physique du Nord, il s'appelle Lutz Long, c'est la grande vedette européenne et allemande des années 30. Et plutôt que de faire la tête à Jesse Owens, le Untermädchen, le sous-homme pour les nazis, il y a à 15 mètres, il y a Göring, Goebbels et Hitler qui sont là, et bien c'est le contraire, il va lui donner des conseils, il va lui dire écoute, t'es le plus fort, prends la planche d'appel plus loin, décontracte-toi. Résultat, il le conseille, Owens devient champion olympique et les deux deviennent copains. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est symboliquement une histoire très belle parce qu'elle est entre le blanc arien, hein, représentant la force hitlérienne. Je vous dis, un physique de jeune hitlérien, c'est pas du tout ça à l'arrivée. Les deux hommes vont s'échanger des lettres, c'est assez bouleversant. Lutz Long dira à Jesse Owens, après la guerre, va voir mon fils, dis-lui qu'on peut s'entendre entre noir et blanc. Enfin voilà, c'est une histoire bouleversante, et tout de même en 1936, dans un climat où, absolument épouvantable et où les années noires arrivent.
Donc là, on a un avant-goût dans le magazine, dans la revue des sports. Ah, on va reparler de vos autres bouquins, mais avant ça, je me tourne vers Hubert Artus, notre autre intervenant invité sur ce plateau de Radio PFM. Auteur du Don Quichotte, dictionnaire rock historique et politique du football. Deuxième version, deuxième édition.
Il y avait une version, la version d'origine est parue en mai 2011 et on a fait une version réactualisée, augmentée en mai 2012.
Vous êtes un journaliste littéraire,
oui,
et passionné de football. Mmh. Alors, du coup, là, littérature, football,
se
rejoignent sur ce livre. Peut-être pour les spectateurs qui sont là.
À qui je dis bonjour, d'ailleurs, parce qu'ils sont nombreux à être venus nous voir.
Et aussi pour les auditeurs de Radio PFM, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la démarche de ce dictionnaire ?
Alors, dictionnaire rock, historique et politique. Pourquoi rock ? Parce que le foot est d'invention britannique, comme le rock d'ailleurs. Et je suis parti du principe que c'est en Grande-Bretagne, alors aussi bien en Écosse, en Irlande et en Angleterre, qu'on trouve ce qu'on appelle la culture football, qu'on a en gros depuis les années 2000 en France, mais qu'on n'avait pas avant. La culture foot, c'est quoi ? C'est la manière dont un supporter d'un club, par exemple moi, comme mon maillot d'aujourd'hui l'indique, c'est l'Olympique de Marseille, mon club, c'est la manière avec laquelle je m'identifie à ma ville et à ma classe sociale à travers ma passion qui,
quand
entre autres,
quand Tapie va être maire, tu vas être mal, hein.
Alors effectivement, quand Tapie va être maire, mais déjà j'étais mal quand il était président du club et c'était l'époque où j'habitais à Marseille. Donc voilà, c'est la manière avec laquelle, par le football, je m'identifie d'une part à ma classe sociale, d'autre part à mon quartier, d'autre part à ma ville. Et s'identifier à sa ville, ça veut dire, quand on est passionné de football, aller au stade ou au bar pour regarder les matchs. Mais aller au stade ou aller au bar, c'est exactement le même mouvement citoyen, urbain, social et culturel que d'aller au bar, que d'aller dans la salle de concert, que de faire de la musique ou que d'aller donc en écouter, que de se bastonner ou que de faire l'amour dans la rue ou ailleurs. C'est un tout. Ou alors d'aller dans le lieu de culte lorsqu'on a un culte et lorsqu'on est pratiquant. C'est un tout. Le rapport à la ville passe par le bar, la salle de concert, l'école, le lieu de culte si on en a un, et aussi le stade. C'est ça. Je le retrouve en Grande-Bretagne. En France, il n'y a que deux villes où je le retrouve. C'est d'une part Marseille, où le stade Vélodrome en plus est vraiment en plein centre-ville, et d'autre part Saint-Ouen, et là Pierre-Louis peut en parler puisque c'est aussi son coin. L'autre de mes clubs, c'est le Red Star, qui est le club communiste, qui est le club où durant la guerre il y avait un résistant qui a fait partie des FTP Moy. Et quand je vais un vendredi sur deux voir le Red Star jouer, ils sont en national, hein, donc il y a entre 300 et 1200 spectateurs, et il y a aussi bien des supporters, des adultes, des gens de la ville, mais il y a aussi des minots qui se donnent rendez-vous, des amoureux, parce qu'ils n'ont pas encore le droit d'aller au bar pour donner rendez-vous. Et ils donnent rendez-vous, ils se retrouvent là, ils passent une mi-temps ensemble, puis après ils ont mieux à faire, donc ils vont garder la deuxième mi-temps, enfin ils la gardent pas en l'occurrence. Mais voilà, donc ça c'est le côté identifié à la ville, donc rock. Politique, parce que donc pour moi c'est aussi une pratique culturelle, donc citoyenne. Et rock, historique et politique, bah donc voilà, il y a tout quoi.
Alors il y a différentes entrées.
Je vais faire, c'est clair ce que je raconte.
Oui, oui. Il y a différentes entrées dans ce dictionnaire. Il y a aussi bien des noms de footballeurs, des noms de clubs ou de stades, mais aussi des entrées avec personnages, des personnalités politiques. Hein. Donc j'ai pris, bon, pas complètement au hasard, le nom de Margaret Thatcher. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Margaret Thatcher a à voir avec
Alors,
le
Margaret
football?
Alors Margaret Thatcher, elle a à voir à partir de 1985, puisque 1985, le drame du Wesel où il y a 39 morts et donc où l'Europe et le monde découvrent ce que c'est que le hooliganisme, alors que le hooliganisme était quelque chose qui était en gros né à peu près 10 ans avant en Angleterre. Et il y avait deux manières de régler le problème, soit on le réglait de manière un peu sociale, citoyenne, soit on le réglait de manière économique. Donc Margaret Thatcher étant une forcenée libérale et je trouve réactionnaire, elle a pris le côté économique de l'affaire. Elle s'est dit, puisque c'est les hooligans le problème, puisqu'à mon avis les hooligans sont pauvres, et ben on a qu'à augmenter le prix des stades, le prix des places dans les stades, comme ça les pauvres n'iront plus au stade, et comme ça on n'aura plus de problème. C'est ce qu'elle a fait. Avec cet argent, elle a rénové les stades, ce qui fait que maintenant les stades anglais sont beaucoup plus calmes, même si ça reste magique d'aller voir un match dans les stades anglais, ou de regarder à la télévision un match anglais. Et donc, il a fallu être plus riche pour aller au stade, donc les pauvres ne pouvaient plus y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un type, un mania de la presse australien qui s'appelle Rupert Murdoch, qui s'est dit, puisque les pauvres ne peuvent plus aller voir les matchs dans les stades, je vais redonner aux pauvres le moyen de voir les matchs, mais à la télé. Donc je vais, moi, Rupert Murdoch, acheter les droits de la Première Ligue, qui est le championnat anglais. Et c'est comme ça qu'il a acheté les droits, qu'il a à moitié privatisé la Première Ligue, qui d'ailleurs depuis s'appelle Première Ligue. Et c'est comme ça qu'a commencé à naître le foot business. Donc Margaret Thatcher, par sa réponse libérale au hooliganisme, dont il faut cependant admettre qu'elle a gagné le combat face à la violence dans les stades, faut bien le dire quand même, mais par sa réponse libérale au problème social, elle est une des personnes avec Rupert Murdoch qui sont à la racine de ce qu'on appelle aujourd'hui le foot business.
Autre entrée de ce Donkey Foot, ce dictionnaire, c'est un groupe, un club emblématique allemand, le St. Pauli. Est-ce que vous pouvez nous...
Ah bah c'est un de ces... Oui, alors malheureusement, maintenant, ils sont en deuxième division, mais c'est un de ces clubs qui ont... c'est près d'Hambourg, hein, c'est un quartier d'Hambourg d'ailleurs, St. Pauli, c'est un quartier, on dirait aujourd'hui reggae, rasta, en gros redskin. Et c'est justement ce genre de quartier et ce genre de club qui promène avec eux depuis toujours la culture redskin, qui est fait donc de musique punk, comme il peut s'en jouer à quelques encablures d'ici, j'ai été voir tout à l'heure, du reggae, et puis une culture de la fête qu'on retrouve quelque part aussi à Dortmund. Hein. Le Borussia Dortmund, c'est en gros un St. Pauli avec un cop plus calme, mais la culture des stades, la culture à la fois rock et fraternelle qu'on trouve dans les copes de football, on la retrouve aussi à Dortmund. Hein. Si j'en parle, c'est parce qu'ils se sont qualifiés hier aux dépens du Real Madrid pour la finale de la Champions League. Alors, et que c'est un des plus beaux footballs qu'on puisse voir jouer en Europe aujourd'hui, hein, le Borussia Dortmund.
Vous êtes déjà rencontré sur des salons du livre, vous connaissez bien et vous avez plusieurs points communs, donc notamment cet intérêt pour le football et pour certaines personnes ou certains matchs. Notamment, quand je vous ai interviewé la première fois, on a parlé, vous me disiez que vous étiez un enfant de Séville.
Un enfant de Séville, oui, parce que le premier match que j'ai vu en direct de ma vie, j'avais 9 ans, c'était donc ce 9 juillet 1982. C'est la demi-finale RFA France de football.
Et Pierre-Louis Baz, vous avez, il me semble, écrit sur ce match.
Oui, j'ai écrit un texte, Séville 82, le match du siècle, oui, en 2005, je crois. Bon, difficile de parler de son travail, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait du point de vue historique, du point de vue politique. Dans ce que dit Hubert, c'est très 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 intéressant parce que bon, il est sur une ligne là de pas de fracture, mais très spécialisé, mais il a raison de rappeler par exemple l'apport de Thatcher, mais c'est dire à quel point le foot est inscrit dans l'époque et c'est ça qui est très intéressant. Il parle de Thatcher
et dans l'histoire aussi.
Et dans l'histoire, quand je dis l'époque, et c'est ce qui m'a moi toujours intéressé. Bon, on a quelques années d'écart, je suis plus âgé, mais c'est vrai que j'écris depuis toujours, quand j'écris sur le sport. J'ai écrit sur Tommy Smith, j'ai écrit sur cette équipe ukrainienne de Kiev en 42. J'écris lorsqu'il me semble, et je suis en train de travailler sur Tommy Smith, sur Owens et Lutz Long, c'est l'histoire qui porte. Alors c'est très intéressant, voyez-vous, parce que on a été toute une période où finalement tout était très cloisonné. Les intellectuels se planquaient pour lire l'équipe. Alors c'était une façon parfois snobinarde de dire on lit l'équipe. François Mitterrand affirmait que le premier journal qu'il lisait le matin c'était l'équipe, mais tout ça était un peu dans la pause. Les choses sont très différentes maintenant. elles sont très différentes pour le pire et le meilleur. Retenons le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a ici dans la salle des jeunes femmes ou des garçons qui peuvent avoir 20 ou 25 ans, qui peuvent aimer les dessins de Raphaël ou de Botticelli à Lille qui sont exposés actuellement, ou de Ernest Pignon-Ernest, mon ami, et le soir aller voir un match du LOSC. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, alors, c'est transversal, voyez-vous. C'est-à-dire que ça peut être. C'est embêtant quand c'est mauvais, quand c'est juste du spectacle, mais c'est formidable quand l'aspect transversal réunit les uns et les autres, parce qu'on peut sincèrement aller voir un match de foot au parc, à Dortmund ou à Lille, et sincèrement s'intéresser à un grand film, à une grande peinture. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose du point de vue contemporain qui est très passionnant. On a trop souvent tendance à être... On est critique sur la société. Bien sûr que nous le sommes. Si on est ici ce soir, aujourd'hui en colère, c'est parce qu'on n'accepte pas une société qui vit sans papier, de misère, et qui est en train de nous emmener vers des situations terribles. Mais en même temps, il faut reconnaître que l'aspect contemporain, si on est vigilant, passionné, eh bien, ça donne ça. Voilà. Ça donne... quelque chose de transversal, d'intéressant. Ça donne ce que disait Pasolini, ce que vous citiez tout à l'heure avec justesse. Attention, les intellectuels, regardez autour de vous. Le sport, ça n'est pas seulement un phénomène de foire, c'est un phénomène de société sur lequel il est urgent de réfléchir.
Mais c'est pour ça que tu as utilisé, Pierre-Louis, le mot transversal. C'est là qui, moi, il me semble absolument indispensable. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire un dictionnaire, parce qu'un dictionnaire qui va de Ajax, Amsterdam jusqu'à Z, en passant par éphédrine, ouvrier, syndicat, etc., ça donne justement une idée historique et transversale. Et quand on met tout ça en perspective, quand moi je raconte l'histoire du foot entre la moitié du 19e lorsqu'il a été inventé, d'ailleurs au départ le foot c'est un sport bourgeois, hein, c'est inventé à Oxford et à Cambridge par ceux qui refusent le rugby, c'est les nobles, et c'est 20 ans après que ça devient ouvrier donc populaire. Donc déjà on prend conscience d'autres choses, et quand on fait une traversée, ce que fait Desport avec le sport, ce qu'a fait Pierre-Louis sur ses différents récits, soit très ciblés sur 42 de Dynamo Kiev, soit justement sur des choses plus transversales, on prend conscience du symbole, de la beauté, du danger, de ce qui est bien, de ce qui est moins bien. Alors, c'est vrai que pour ce qui est du football, avant 98, beaucoup considéraient que ceux qui aimaient le football, c'était par définition des beaufs qui avaient une R12 avec un pare-soleil marqué Kevin dessus ou quoi, par exemple. Voilà, c'était vraiment super ringard, quoi. Après 98, ça a été super branché. Il fallait absolument, si on voulait être bien considéré, faire semblant de s'y connaître au foot. Et puis alors, après 2010, c'était le renouveau l'inverse. Alors on était plus beauf, mais enfin, ouais, forcément, tu pactises avec le foot business, parce que de toute façon, c'est Anelka, c'est ces mecs-là qui font grève, etc. Effectivement, c'est complètement chiant de faire une grève de riches sur le continent le plus exploité de la planète. Mais il faut quand même bien recadrer les choses. Si on prend justement, pour le mot transversal, bien conscience de... Bon, moi, c'est ma passion, le football, donc c'est une de mes grilles de lecture au monde, mais celui qui aime la gastronomie, il va pas simplement aimer cuisiner, il va s'intéresser aux saveurs, aux épices, donc au voyage que dans le temps les explorateurs ont fait pour découvrir les épices. C'est ça, c'est notre rapport au monde qui est fait. Alors, pour ça,
alors attention, on n'est pas toujours d'accord.
Mais hein, on n'est pas toujours.
Il sait très bien quel est l'aspect.
Voilà, parce que je voulais en venir au spectacle. Ouais. Parce que l'une des raisons pour lesquelles j'aime énormément le football et la politique du football et la culture du football, c'est que justement, c'est ce qui m'amène à ne pas être angélique contre le foot business. J'ai fait une vignette sur Anelka dans mon livre où j'utilise le mot branleur et d'autres. Bon, ça m'a valu sa colère et ça m'a valu que par des journalistes qu'il connaît, ces journalistes-là, il aura à moitié interdit de faire des articles sur moi. Sur la fiche syndicat, j'y vais bien aussi. Donc voilà, il ne faut pas être angélique, mais être amoureux de ce qu'est le football en général, c'est pas être angélique envers le foot business. Par exemple, on peut aimer la politique et se sentir citoyen sans être angélique du fait que, évidemment, peut-être que 2/3 de la classe politique est corrompue, mais c'est pas pour ça qu'il faut désespérer du tiers qui reste, de la politique, de la démocratie et de la citoyenneté, laquelle peut éventuellement passer par le sport. Voilà, pardon, j'étais un peu long, mais...
Justement, puisqu'on parle de foot business, bon, c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'un désamour du public par rapport, bon, à l'équipe de France, mais de manière générale par rapport au football, justement du fait de ce foot business, de la présence de grosses sommes d'argent dans les clubs, et puis aussi des salaires énormes, quoi. Comment vous voyez ça un peu? Est-ce que votre fascination, enfin, votre passion pour le football aurait pas tendance à peut-être effacer ce genre de choses?
Non, mais ça, sur cet aspect-là, bon, c'est Hubert le sait, je suis extrêmement critique.
Et moi aussi, par ailleurs.
Toi aussi, c'est vrai, mais je pense que je le suis davantage, je suis plus pessimiste, mais je pense plutôt que business, parce que le business, mon Dieu, on peut aussi considérer business que c'est parfois la vie, ce sont des échanges, on va pas ici faire un cours d'économie, mais business, c'est moins le business. business qu'une société de marchandisation et qui fait de nous, qui est en train de faire de nous des produits de marchandises. Mais ça n'attaque pas seulement le sport, je dirais que ça attaque aussi l'amour. Le philosophe Alain Badiou, que vous devriez inviter ici, a dit des choses merveilleuses sur l'amour. Est-ce que y compris l'amour ne va pas hélas plonger dans cette société de marchandisation quand on voit comment on nous influence à consommer et à surconsommer? Est-ce que demain encore on réussira, est-ce que le couple réussira à dépasser cette société de consommation? Alors le foot, il est ni plus ni moins l'expression de cette société de marchandisation. Et ça, en effet, je la refuse. Je refuse qu'on m'impose aujourd'hui de voir du foot hors toute gratuité. Parce que si je veux voir les grands matchs de la saison à la Ligue des Champions, si je n'ai pas Canal, si je n'ai pas d'argent pour m'abonner, si je n'ai pas Bein, eh bien qu'est-ce que je fais? Je ne vois pas les matchs. Donc aujourd'hui, on est dans une situation absolument invraisemblable, où on est obligé de payer systématiquement pour aller voir des matchs. Ça, c'est la première chose. La seconde, je refuse qu'une société m'impose 1000 matchs, je dis bien 1000 matchs par mois, quand il y a encore 20 ans, on en avait 30 ou 40 par. Parce que je pense en effet qu'une société pour bien vivre a besoin aussi de culture. C'est-à-dire qu'au moment même où on liquide la culture dans ce pays et en Europe, où on lui supprime les crédits, où des hommes et des femmes de théâtre sont dans la précarité totale, dans la survie, au même moment, on nous impose un spectacle du sport qui n'a plus rien à voir avec l'altérité dont elle a besoin. Qu'est-ce que c'est l'altérité dans la vie? C'est du sport, mais pas tout le temps du sport. C'est aussi autre chose. C'est aussi du théâtre en prime time. C'est aussi sont aussi des enjeux culturels qui n'ont rien à voir avec ce qu'on nous propose à la télévision. Donc c'est là que je dis non, niet. Vous m'emmènerez pas sur ce terrain-là. Donc voilà, c'est peut-être une faible résistance, mais je me suis refusé de voir, par exemple, 2 des 4 matchs de Ligue des Champions. Je le regrette. Je le regrette parce que j'aime ça. Mais je autrement, vous savez, ça va très vite. Je renvoie à Deleuze, le philosophe, qui a fait un merveilleux abécédaire que tu connais, Hubert, et qu'il faut revoir, les plus jeunes doivent le revoir. C'est un abécédaire filmé par Claire Parnet et produit par Boutang il y a quelques années. Le philosophe Deleuze qui aimait le sport, et d'ailleurs il est présent dans le premier numéro des sports sur le tennis. Qu'est-ce qu'il disait Deleuze? Il disait: vous avez une culture dans un pays, ça peut disparaître du jour au lendemain. Il n'y aura pas des manifestations pour aller se plaindre si tel ou tel écrivain de grand talent ne peut plus vivre, si tel théâtre ne peut plus avoir de compagnie. Il n'y aura pas de manifestation de culture. C'est la culture d'un pays, c'est comme une flèche qu'on lance, on ne sait pas où va retomber. Eh bien, je suis désolé, mais un pays qui donne la possibilité à une imbécile comme Nabila de faire des interviews à des heures de grande écoute, c'est un pays dont la culture est en danger. Voilà ce que je peux dire.
Hubert Arthus, sur le foot business.
Oui, c'est parce que c'est un point sur lequel je suis un petit peu moins catégorique. Je suis tout aussi contre le foot business. De toute façon, mon livre le prouve, et ce que j'ai dit sur le Qatar, sur Anelka avant, le prouve aussi. La différence et la nuance que j'apporte par rapport à ce que vit Pierre-Louis, c'est que je ne pense pas que la société nous impose d'avoir 1000 match ou d'en garder 40, etc. Il est vrai que la société marchande nous a imposé de devoir nous abonner à Canal+ et à Bein Sport pour pouvoir regarder la Ligue des Champions de football ou dernièrement le Championnat d'Europe.
T'as pas Bein, t'as pas Canal, tu vois pas les matchs de Ligue des Champions.
Mais ceci dit, quand tu dis après que la société m'impose de... Non, la société t'impose pas. La société libérale t'a imposé 10 000 choix, parmi lesquels 80 ou 100 matchs de foot, effectivement. Bon, moi, il se trouve que j'ai fait le choix de m'abonner du coup à Bein et à Canal, parce qu'effectivement, pour voir ces matchs-là, je la regarde soit chez moi, soit au stade, soit au bar. Moi, les matchs, le plus souvent, c'est au bar. Hein. Mais lesquels bars, du coup, se sont aussi habillés. Voilà. La société n'a pas imposé. La société a proposé, et après, on fait le choix ou on ne fait pas le choix. Tu as fait le choix de ne pas, ce qui est très bien, et moi, par exemple, je fais le choix d'aller regarder le match au bar ou de m'abonner à Bein. Mais la société n'a pas imposé. La société t'a proposé et tu as choisi de ne pas disposer. Ouais. Ce qui est très, il y a zéro souci évidemment. Mais je pense que la société t'a imposé.
Je pense que c'est le système, appelle-le comme tu voudras, mais c'est quand même le système ultra-libéral, société ou pas, système ou pas, qui crée les conditions objectivement pour qu'un pays ne puisse plus accéder à quelques grands événements de sport gratuitement, c'est tout de même, qu'on le veuille ou non, le résultat d'une politique, d'un système qui existe.
Oui. Je veux dire, ça, je dis pas le contraire.
Parlons de ce qui se passe en Grèce aujourd'hui et qui sera peut-être chez nous demain ou après-demain. Qu'est-ce qui se passe en Grèce, où des librairies ferment les unes après les autres, où le livre disparaît.
Ah, mais ça, en France,
et là, on
n'a
pas besoin de le brûler, le livre, on ne le brûle pas.
Non, mais ça, en France, ça se passe aussi.
Donc, tout ça est lié. Tout ça, la discussion qu'on a autour du sport, de l'écriture du sport, tout ça, à mon avis, est profondément lié.
Pierre-Louis Basse, dans vos écrits, très souvent vous intéressez à des figures de résistance, hein. Vous avez cité l'équipe ukrainienne de 42, de Jesse Owens et Luz Long. Aujourd'hui, ces figures de la résistance, une autre forme de résistance à d'autres dangers, on les voit pas, non, finalement? Est-ce qu'il y en a?
C'est-à-dire que, alors bon, là, aujourd'hui, j'ai du mal à les apercevoir. Il y a ponctuellement il faut faire extrêmement attention, hein, avec les faux rebelles, hein, parce que ça, là, c'est la même chose. La digestion de la société de consommation et hypercapitaliste a beaucoup de talent pour créer des rebelles qui n'en sont pas, hein, et pour en faire des étendards. Ils sont légions. J'appelle à une figure vraiment contemporaine, en décalage avec sa société. J'appelle par exemple un Socrates qui est mort il y a quelque temps, dont tu parles, qui est mort fin 2011. Voilà un grand joueur de football contemporain, Socrates brésilien, qui a osé se battre contre la dictature au Brésil, hein, à la tête de Corinthians, avec un bandeau démocratie. Voilà une figure intéressante. Aujourd'hui, je dois dire que je les cherche, je n'en trouve guère. Hein, mais peut-être existe-t-elle. Il y a des types qui ont, à leur manière, une façon d'exprimer le sport et leur métier de façon très, très intéressante. C'est déjà une façon de résister.
Hubert Artus.
Non, mais là pour le coup, aujourd'hui non, mais de toute façon, pour le sport dont on parle, là on est en train de vraiment parler des stars, de ceux qui sont vraiment qui ont des salaires mirobolants, etc. En gros, on est en train de parler de 300 personnes dans le monde, là. Hein. Donc dans ce, ni Anelka, ni Valbuena, ni Ibrahimovic, ni Beckham, ni qui vous voulez, ne sont ni Messi, ni Ronaldo, ne sont des résistants en aucune manière. À la limite, le dernier qui a peut-être eu, bien qu'il commençait aussi à verser dans le culte et le commerce de sa propre image, chez Cantona. Bon, c'est là, on est avant 98. Mais effectivement, moi, les derniers. Donc, il y a Socrates qui est, à mon avis, le plus grand footballeur politique. Ça, Pierre-Louis a tout à fait raison. Hein, capitaine de l'équipe du Brésil, membre de la très belle équipe du Brésil entre 78 et 86, celle qui n'a jamais gagné de titre, alors qu'avec Zico, c'était peut-être la plus belle équipe du Brésil de tous les temps. On appelait Docteur Socrates parce qu'il avait des diplômes de docteur, et effectivement il a milité, il a inventé la démocratie corinthienne. La démocratie corinthienne, c'était ce club des Corinthians de Sao Paulo qui était le sien, et il a fait une autogestion entre joueurs pour d'une part virer son entraîneur et après prouver que dans le sport, donc dans la société, une autogestion pouvait être possible. Et parmi les derniers matchs qu'il a fait aux Corinthians, il y avait aux Brésiliens, mais ça je ne saurais pas le dire, vivre en démocratie ou mourir. C'était la veille d'un référendum contre la dictature. Il y a eu lui, il y a eu Matthias Sindelar, que je rappelle dans mon livre, qui était un footballeur autrichien qui a refusé de jouer pour le Reich quand Hitler a annexé l'Autriche. Et il y a Renato Della Negra, footballeur du Red Star en 1942, français d'origine italienne, membre des FTP Moy la nuit et footballeur le jour. Il a été fusillé au Mont Valérien avec les autres, bien que lui n'était pas sur la fiche rouge, hein, avec Manoukian, mais il était quand même dans les FTP Moy. Et ce qui est marrant, c'est quand j'ai commencé à enquêter un peu sur lui, c'est Didier Deninx qui a été le premier à en reparler, hein, dans une nouvelle qui était parue il y a des années. C'est comme ça que j'ai retrouvé sa trace. Et puis j'ai un petit peu enquêté. La majeure partie des gens qui l'avaient approché à l'époque sont morts. Et puis je commence à fouiller des archives, etc. Puis je tombe sur une photo de l'équipe de 1942 du Red Star, donc l'équipe de Saint-Ouen, l'équipe communiste. Et je vois capitaine de l'équipe d'alors, un certain Léon Fuenkinos. Là, je me dis quand même, bon, déjà un nom juif grec à l'époque, malheureusement, dans la région parisienne, il ne va pas y en avoir beaucoup. Donc, il y a quand même de fortes chances qu'il ait des liens avec David Fuenkinos, l'écrivain, le jeune écrivain français actuel. Et donc, j'appelle David Fuenkinos, je lui dis par hasard, c'est Léon Fuenkinos, il n'aurait pas un lien avec toi? Il dit, bah si, c'est mon oncle. Tu veux le voir, Hubert? Moi, je pensais que le type, il était mort. Capitaine de l'équipe du Red Star en 42. Voilà. Et en fait, bon, le type était encore vivant, donc maintenant il est en hospice, mais donc j'ai pu le rencontrer. Voilà. Et en fait, il se trouve que mon livre et mon rapport historique et politique au football, c'est que ça. Voilà, c'est trouver des résistants, des liens avec un club qui est mythique, etc. Voilà, c'est ça.
On a, Hubert Artus a parlé de Cantona. Pierre-Louis Basse, vous avez, il me semble, réalisé un livre d'entretien avec Eric Cantona. Qu'est-ce que vous pensez de cette figure?
Non, je n'ai pas réalisé un livre d'entretien. J'ai écrit sa biographie en 93, donc ça fera 20 ans dans quelques jours. Un rêve modeste et fou chez Robert Laffont. Très, très, très honnêtement, je n'ajouterai rien d'autre sur Cantona, qui est pour moi un personnage symétriquement à l'opposé de tout ce qu'il démontre et qui ne m'intéresse pas.
Une petite question de Boris.
Oui, j'écoute attentivement justement et je suis un peu d'accord avec Pierre-Louis Basse sur le fait que moi non plus, je ne regarde plus la Ligue des Champions. Et je préfère finalement aller voir un Frévent Burbure. Hein. Au moins, j'ai l'impression de voir vraiment du sport. Moi, j'aimerais savoir votre avis sur ce que devient l'homme, le sportif et le footballeur sur le terrain aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et est-ce que vous avez, au cours de vos pérégrinations, on va dire, footballistiques, rencontré des stars et avoir eu l'occasion de discuter avec eux, enfin des stars du foot, avoir eu justement l'occasion de discuter avec eux pour savoir ce qu'ils avaient dans la tête, tout simplement, maintenant, aujourd'hui, le footballeur. Qu'est-ce qu'il a dans la tête?
Alors, très très court, parce que j'ai été une partie de ma vie, je ne suis plus à la radio, bien sûr. Bon, je fais une petite émission une fois par semaine autour des livres du sport, mais je ne suis plus à la radio. Mais c'est vrai que pendant quand même près de 30 ans, j'ai écumé pas mal de stades avant d'arrêter de m'occuper de sport. Et en particulier, j'étais grand reporter, et c'est vrai qu'il y a des figures, plus que des stars, je dirais des figures. Alors, je vais vous en donner deux ou trois, et puis je vais vous donner mon sentiment sur l'évolution des rapports entre écrivains ou journalistes avec ces sportifs, avec ces figures, hein, qu'ils soient footballeurs ou sportifs de haut niveau. Alors, je dois vous dire que j'avais été très séduit par Jürgen Klinsmann, qui était un personnage qui a joué en France, à Monaco, séduit parce que je le voyais dans l'avion, quand il rentrait des matchs, travailler son français, lire en français, voilà. J'étais séduit par Rai, que j'ai bien connu et à qui j'avais offert les œuvres complètes de Ionesco, je me souviens, en Pléiade, parce que Rai allait au théâtre, à la Comédie Française, et voilà, quelqu'un qui sincèrement s'intéressait à la littérature, donc c'est proche de nous, Rai, hein, il a été en France. Bon. Alors ça, c'est l'aspect...
Le petit frère de Socrates.
Le petit frère de Socrates. Donc, des figures, elles peuvent toujours exister, on peut en rencontrer. Maintenant, la façon d'appréhender le métier, bah, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, peu ou prou deviennent des produits. C'est-à-dire que vous pouviez avoir un contact, il y a encore quelques années, à travers une investigation que vous aviez, une relation plus chaleureuse avec tel ou tel. Aujourd'hui, c'est terminé. Ils évoluent comme des bonhommes dans des papas mobiles, c'est-à-dire qu'ils sont derrière une glace sans teint. Ils sont devenus, oui, des produits de consommation, consciemment ou inconsciemment. Et face à des produits de consommation, vous n'avez plus de relation. Vous avez des rewriting possibles, vous avez des contacts comme ça, mais vous n'avez plus la possibilité de faire un travail d'investigation au long cours. C'est pas possible. Donc vous avez souvent des livres, des one-shots qui sortent, qui sont des espèces de choses sans intérêt. S'il y a un travail réellement au long cours, les choses sont différentes et bien plus difficiles qu'auparavant. Voilà ce que je peux dire. Bon, c'est mon expérience maintenant. Elle vaut ce qu'elle vaut. Hein.
Hubert Artus, peut-être
Moi, d'une part, je n'ai pas de contact quotidien ou régulier avec des sportifs en activité, puisque je ne suis pas journaliste sportif. Donc, ce n'est pas du tout. Hein. Moi, je suis vraiment journaliste littéraire, essentiellement. Après, pour des enquêtes que je fais pour ce livre, pour d'autres investigations que je prépare, il m'arrive d'avoir des rapports avec des médecins, des dirigeants, des agents surtout, et chercher à avoir contact avec des footballeurs. Alors comme le dit fort justement Pierre-Louis, là je plussois, effectivement les footballeurs professionnels en Europe aujourd'hui, il est impossible de les approcher directement. L'attaché de presse du club souvent fait barrage, l'agent toujours fait barrage, le patron ne répond jamais. C'est vraiment extrêmement difficile. Bon, après, par d'autres moyens détournés, on peut toujours y arriver, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ce temps qui passe est utilisé par les agents ou par le footballeur à essayer d'imaginer un discours qui va noyer un peu le poisson. Mais en cela, les footballeurs dont on parle ne sont en rien différents des politiques, des stars du cinéma, etc. Et le drame du football professionnel dont on parle actuellement, c'est qu'on a affaire non plus à des sportifs qui deviennent des stars, mais à des gens qui veulent devenir des stars et qui, pour cela, en passent par le football. exactement comme des gens qui veulent, dont le rêve est de chanter. Certains ont cédé aux sirènes de la télé-réalité et en passent par la télé-réalité pour apprendre à chanter et devenir une star du chant. Il y a une bonne partie des footballeurs, et à mon sens, Anelka en fait partie, même si Anelka, j'ai aucun respect citoyen et politique pour lui, mais j'ai du respect footballistique pour lui. Ce genre de footballeurs, c'est des gens qui ont utilisé le football pour devenir des stars, parce que pour eux, leur métier, c'est pas footballeur. Leur métier, c'est d'être une star.
C'est d'être connu, quoi.
C'est d'être connu. Tout et simplement. Pour ça, ils utilisent le football. Voilà. Donc, mais c'est en rien différent de beaucoup d'autres corporations. Hein. J'ai autant de mal à interviewer un politique. Et là, pour le coup, c'est des gens que j'interviewe beaucoup plus souvent que des footballeurs. Cela dit, c'est une des raisons pour laquelle il y a le football amateur dont il ne faut surtout pas désespérer actuellement. Et il y a un essor, je le pointe dans les deux éditions de mon livre et je ne cesse d'en parler parce que la France est le seul pays qui snob le football féminin et qu'il faut quand même bien s'apercevoir que même si en France c'est Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais, qui pour des raisons libérales s'est aperçu que la France était en retard sur le football féminin par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre et par rapport à l'Italie, a décidé de monter la première grosse section de football féminin professionnel en France, c'est pour des raisons de concurrence, hein, c'est pas pour des raisons de culture ou machin, mais en mine de rien, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui les joueurs de l'Olympique lyonnaise ont été deux fois vainqueurs de la Ligue des Champions, elles vont aller en finale cette année, que l'équipe de France de football féminin a été quatrième des JO l'année dernière, a été troisième de la Coupe du Monde l'année d'avant, et il y a un championnat d'Europe des Nations de football féminin au mois de juin là. Le football féminin nous prouve aussi que le football n'est pas qu'une affaire de sous, parce que je vous garantis que dans le football féminin, des sous, c'est bien simple, il n'y en a pas. Moi, je suis le club de la région parisienne de Juvisy, c'est dans l'Essonne, que je vais voir aussi assez régulièrement. Je vous garantis que Sandrine Soubéran, qui est la capitaine du club et qui est la capitaine de l'équipe de France, elle est éducatrice les deux tiers de sa journée et footballeuse le soir. Donc, dans le football féminin, du fric, c'est bien simple, il n'y en a pas. Et c'est un beau football.
Et tout à fait. Moi, je dis vive le foot féminin.
Voilà. Alors, Hubert Artus, merci. Je rappelle que vous êtes auteur de ce Donkey Foot, dictionnaire rock historique et politique du football. Et puis Pierre-Louis Basse, votre dernier ouvrage en date, c'est Gagner à en mourir, je dis pas de bêtises cette fois-ci. Et donc vous avez contribué à cette revue qui s'appelle Des Sports, premier numéro, le prochain numéro devrait pas tarder à sortir si je ne m'abuse. Et puis donc pour les
16 mai, je crois.
Pour les spectateurs, n'hésitez pas
à
venir rencontrer Pierre-Louis Basse et Hubert Artus qui sont encore là pendant quelques heures.
Une grosse heure, hein,
voilà.
Une heure et demie pour une
et puis merci à vous tous.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à toi.
Trop de cadavres dans les placards, vidons les poubelles de l'histoire. C'est la revanche des causes perdues, le jour des meneuses de revue. À quoi bon se racheter une conduite? En plus c'est pas dans nos moyens. On n'est pas le genre à prendre la fuite, surtout quand il reste divin. Toi qui souffrais devant l'absence d'égalité de traitement en France, tu peux souffler, on te promet, personne ne sera épargné. Mais tes fossiles deviennent marteaux, reste racile, le poing bien haut. Si de profil, t'as l'air de dos. Quand tu défiles, tu es Lénine Renault. Toi qui penses qu'il est plus prudent de contourner certains sujets, évite de mettre les pieds dedans, on est venu les remuer. La jeune garde a mis son veto, bien trop travelot pour des cocos. On serait bien trop sentimental pour jouer l'international. Mais tes fossiles deviennent marteaux, reste gracile, le poing bien haut. Si de profil t'as l'air de dos, quand tu défiles, tu es Lénine Renault.